Maintenant qu'on a vu le contexte philosophique qui va alimenter les intellectuels, les syndicats, les activistes en tout genre, on peut revenir alors à Sartre, qui est peut-être l'un des derniers à avoir magistralement utilisé donc la pensée de Hegel. Sartre et sa préface aux Damnés de la Terre. Alors, je vous avais cité tout à l'heure un exemple hein, qui donne une idée de la violence du propos. Il faut tuer, ou il est légitime plus exactement, de tuer un Européen pour que le colonisé sorte de son enfer. Si maintenant vous prenez un peu de recul par rapport à cette préface, hein, je vous conseille de la lire, elle est très bien écrite, hein, c'est du Sartre. On se rend compte que c'est un texte qui est construit effectivement selon la dialectique de Hegel, en trois temps par conséquent. Alors, brièvement, comment le texte donc s'organise? Eh bien, vous avez tout d'abord la thèse, bien sûr, hein, c'est toujours la même mécanique à l'œuvre, la thèse, et qui est l'acteur de la colonisation de l'Algérie? Ben, c'est le colonial, l'homme colonial, c'est le français, c'est l'occupant. Et celui-ci, donc en fait on est dans une dialectique du maître et de l'esclave en quelque façon, hein. La toile de fond, c'est surtout, me semble-t-il, cet exemple-là, donc repris à Hegel à travers donc le titre dialectique du maître et de l'esclave. Donc du côté de l'occupant, donc c'est lui qui initie le processus, c'est lui qui a envahi bien évidemment l'Algérie, et c'est lui qui soumet donc les indigènes, les personnes qui habitent là, les Algériens. Alors, tout comme vous vous souvenez chez Hegel, l'esprit absolu est au point de départ, il est à la manœuvre, mais vous vous souvenez qu'il est marqué par une limite, hein, le fait qu'il ne se connaisse pas. Chez Marx, vous vous souvenez, c'est le besoin humain qui est à l'origine de l'histoire humaine, mais c'est un besoin qui est marqué par la limite qui le concerne, à savoir qu'il ne peut pas se satisfaire lui-même, il doit aller dans le monde. Eh bien ici, vous avez la même chose, donc l'occupant est celui qui soumet les Algériens, dans ce cas-ci du moins, mais il y a une limite à l'occupation, il y a une limite à la soumission. Et la limite à la soumission, c'est que comme on veut exploiter les Algériens, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les épuiser à la tâche. Il faut bien qu'on les laisse se reposer, il faut bien qu'on les nourrisse. Enfin bref, donc la soumission de l'autre, la soumission de l'autre, eh bien, se traduit quand même par une limite. Hein, il y a quelque chose qui doit résister, qui doit échapper à la domination, c'est le fait que ces gens doivent bien continuer à vivre pour pouvoir être exploités et continuer à être exploités. Donc la domination a une limite. Ça, c'est le premier point qui peut être développé évidemment par tous les faits historiques, évidemment, qui montrent qu'effectivement, donc on est dans une relation de maître à esclave, le maître est celui qui décide, est celui qui prend l'initiative, le dominant, évidemment, c'est celui qui, au départ, fait l'histoire. Alors évidemment, le pouvoir du maître va s'appliquer à quoi? À son contraire, à ce qui n'est pas lui, à ce qui n'est même pas un humain finalement, hein, à un soumis. Donc l'antithèse, c'est évidemment donc l'Algérien lui-même, l'esclave, le dominé, bien sûr, qui est tout l'inverse du dominant, bien sûr. Donc le dominant cultivé, civilisé, le dominé bête sauvage, à peine humain, enfin bon à être soumis, etc., etc. Et du côté du dominé, donc de l'antithèse, de celui qui s'oppose par conséquent et qui est nié par le dominant, hein, première négation à l'œuvre, le dominant nie celui qui est en face de lui, celui qui est posé comme étant son contraire, celui que le dominant définit comme n'étant que bon à être soumis. Donc du côté du soumis, effectivement, du dominé, eh bien, il y a cette part de vie qui lui est laissée, il y a quelque chose là qui demeure, hein, à sa disposition, cette vie qu'on préserve chez lui, parce que s'il venait à disparaître et à mourir, on n'aurait plus de main-d'œuvre, évidemment, et il n'y aurait plus d'intérêt pour le dominant à être en Algérie. Et cette part de vie qui demeure, eh bien, suffit pour que déjà de la colère gronde. Ce sont les fils d'Issart qui voient leur père humilié. Et déjà là, dans ce spectacle navrant, eh bien, cela suffit, même si pourtant ils sont contrôlés de toutes parts et soumis de toutes parts, mais cela suffit pour qu'ils aient, pourrait-on dire, cette liberté, cette possibilité de ressentir de la colère, et donc qu'ils aient cette possibilité de ne pas accepter ce qui est en train de se produire. Alors évidemment, se manifeste toute une série de comportements violents, donc des révoltes de temps en temps, mais comment cela est-il vécu? Ça ne change pas le système. Donc tant qu'on est dans thèse-antithèse, ben, évidemment le système se maintient, il y a une espèce d'équilibre dans cette opposition. La négation des dominants sur les dominés reste la loi. Et comme ce sont les dominants qui disent qui sont les dominés, ce sont les dominants qui disent comment il faut comprendre cette colère des dominés. Et que vont-ils dire? Ils vont dire que cette colère des dominés n'est pas du tout une colère justifiée en réponse à la violence qu'on leur fait subir, absolument pas. Donc une plainte sociale, si vous voulez, absolument pas. Non, non, la violence manifestée par les Algériens, ces révoltes qui ont lieu de temps en temps, n'est rien d'autre que de la délinquance. Et donc en réduisant ainsi ces comportements à des expressions de délinquance ou de sauvagerie, c'est la preuve qu'ils ne sont pas civilisés, enfin ce genre de choses, en tenant ce genre de propos, on empêche, évidemment, on s'empêche de pouvoir comprendre le sens de cette révolte, de cette colère qui gronde et qui de temps en temps, effectivement, eh bien, se manifeste. Donc vous avez thèse dominant, qui effectivement tient le crachoir, est à la manœuvre, dit qui est qui fait quoi, et soumet les dominés, et antithèse, ben, ceux qui évidemment sont les opposés des dominants, donc les dominés forcément, et qui eux n'ont que le fait d'être laissés en vie pour eux. Mais ça suffit déjà pour que, du coup, il y ait bien une opposition, on soit bien dans une opposition avec les dominants, et qui se manifeste de temps en temps donc par des manifestations plus ou moins violentes, mais qui sont réduites au statut de délinquance, qu'il faut donc, évidemment, une fois qu'on a réduit la violence à de la délinquance, ou, dirait-on aujourd'hui, à du terrorisme, eh bien, évidemment, ça justifie que l'on réprime cette violence, que l'on ne l'entende pas comme le signe d'une injustice vécue, bien sûr, et donc c'est toutes les mesures qui s'en suivent, arrestations, fusillades, etc., etc. Et puis, dit Sartre, troisième temps, c'est le temps de la négation. Donc les dominés qui sont niés par les dominants, ça c'est la première négation, eh bien, immanquablement, vont se révolter contre les dominants. Alors au départ, donc on l'a dit, ce sont des petites bagarres, ce sont des tentatives qui échouent et qui sont récupérées par le système juridique des dominants, mais progressivement, eh bien, le mouvement s'étend et ces dominés qui ont le défaut de vivre encore, eh bien, vont finalement se rebeller contre les dominants. Et là, c'est la négation, par conséquent, de la négation. Et ce moment donc, de la négation, donc, qui va conduire à la synthèse, eh bien, donc, négation de l'opposition entre eux ou de l'existence de la relation dominant-dominé. Donc cette négation de la négation ne peut se faire évidemment que, c'est une négation, donc c'est un moment négatif, ça ne peut se faire que par la violence, bien sûr. Et c'est là, à propos de cette violence nécessaire pour supprimer une violence initiale, la négation initiale des dominants sur les dominés, donc ce n'est que par une contre-violence, quoi, on pourrait le dire comme ça aussi, ce n'est que par cette contre-violence qu'on peut sortir de cette violence initiale. Et c'est là que l'on retrouve donc le fameux extrait que je vous ai lu, où tuer un colonisateur, c'est par conséquent libérer un colonisé. Et plus exactement, ce que l'on devrait dire, c'est ce que Fanon écrit, c'est ce que Sartre reprend aussi, c'est que celui qui se rebelle, ceux qui vont se rebeller contre les dominants, se sacrifient évidemment, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes font partie de l'ancien monde, de ce monde qu'il faut renverser, Et donc il se sacrifie dans le conflit inauguré contre les dominants, il se sacrifie pour que les jeunes générations, les nouvelles générations, puissent avoir une autre vie qu'une vie enfermée dans la relation dominant-dominée. Et pour que cette nouvelle génération aussi puisse, en Algérie, être chez elle par conséquent. Donc voilà la relecture de l'histoire. La violence à laquelle on assiste est une violence nécessaire, indispensable, et si on veut bien la comprendre, il faut donc sortir du discours des dominants qui réduisent cette violence à du terrorisme, hein, ou de la délinquance, pour comprendre qu'elle est en fait la violence qui répond à une violence initiale. Quand vous regardez un peu les discours effectivement rapportés par les médias autour des gilets jaunes, c'est donc dans les manifestations qui ont eu lieu fin 2019, c'est un peu la même chose, hein, qui s'est produite, c'est-à-dire qu'il y avait donc des délinquants, des gens qui cassaient des vitrines, tout ce que vous voulez, et le discours officiel rapporté par les médias dominants, c'est quoi? C'est de réduire ces actes-là à ce simple statut de vandalisme, qui nécessite donc une arrestation et une justice expéditive. Et des intellectuels qui connaissent Sartre, qui connaissent Hegel, qui connaissent enfin bon, cette grille de lecture, hein, cette manière d'interroger les choses, des intellectuels effectivement, donc par exemple Emmanuel Todd, pour prendre un intellectuel qui est contesté par ailleurs, enfin qui est fort discuté, mais qui a pris la parole dans ces circonstances-là, bien ce sont des gens effectivement qui, donc comme Emmanuel Todd, qui ont essayé de faire entendre le fait que cette violence, il ne fallait pas se tromper de discours, ce n'était pas, ou d'interprétation, ce n'était pas une violence d'abord de délinquance, même si c'est ça qu'on voit évidemment, hein, de manière spectaculaire, c'est une violence, certes spectaculaire, et qui peut-être nécessite une condamnation, hein, remarquez bien, puisqu'il y a dégâts, donc il y a réparation obligatoire, mais n'empêche que, c'est une violence, si on veut en comprendre la signification, qui doit d'abord être comprise comme une réponse à une violence d'État. Hein, donc ce sont des personnes qui sont exclues de l'État, qui sont les malmenés d'un système néolibéral, et comprendre leur violence simplement comme du vandalisme, ben c'est un peu court. Hein. Personne ne commet des actes de violence sans raison, juste pour le plaisir. C'est tout un contexte qui fait qu'on en vient à, effectivement, pourrait-on dire, devenir un vandale, hein, et casser des vitrines. Hein. Ni vous ni moi, nous casserions des vitrines si nous n'y étions pas amenés d'une façon ou d'une autre. Donc ce sont des gens qui sont mis dans des conditions telles que... Et ces conditions qui les amènent à produire ce genre d'actes, c'est quoi? Ben, ce sont des conditions engendrées, effectivement, par le contexte socio-économique dans lequel nous vivons, qui... sacrifie une partie de sa population, qui exploite une partie de sa population et crée un rebut, hein, des inutiles, des gens dont on ne sait quoi faire. Et donc c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Et bien, si vous voulez, donc un précurseur de cette lecture, c'est en fait Sartre. Sartre est lui-même s'inspirant donc de Marx et s'inspirant derrière Marx, s'inspirant bien évidemment de Hegel et de la dialectique elle-même. Donc voilà comment on pourrait... Enfin, en tout cas, voilà comment Sartre, effectivement, montre la nécessité de la violence pour sortir d'une violence initiale, négation de la négation, qui répond donc à la négation première, hein, donc la violence initiale, effectivement, dans laquelle les gens se trouvent repris. Donc, c'est une illustration... pour vous montrer que de fait il y a des intellectuels qui ont utilisé cette grille jusque tard finalement, hein, ont utilisé cette grille pour expliquer que l'on ne peut pas échapper à des situations de violence. Et alors je voudrais terminer par un petit extrait dans ce texte, donc dans cette préface aux damnés de la terre. Sartre s'en prend, enfin s'adresse, il ne s'en prend pas, mais il s'adresse à un moment donné, à tous ceux qui sont plutôt partisans de la non-violence, on veut bien entendre des explications qui justifieraient soi-disant la violence, mais non, c'est la non-violence qui est la seule solution possible. Et voici ce qu'il leur dit, voici comment il leur écrit. Il dit ceci: « Il faut d'abord affronter ce spectacle inattendu, le striptease de notre humanisme. Le voici tout nu, pas beau, Ce n'était qu'une idéologie menteuse, l'exquise justification du pillage. Cette tendresse et sa préciosité cautionnaient nos agressions. Ils ont bonne mine, les non-violents, ni victimes, ni bourreaux. Allons, si vous n'êtes pas victime, quand le gouvernement que vous avez plébiscité, quand l'armée où vos jeunes frères ont servi sans hésitation ni remords, ont entrepris un génocide, vous êtes indubitablement des bourreaux. Et si vous choisissez d'être victime, de risquer un jour ou deux de prison, vous choisissez simplement de tirer votre épingle du jeu. Vous ne l'en tirerez pas. Il faut qu'elle y reste jusqu'au bout. Comprenez enfin ceci. Si la violence a commencé ce soir, si l'exploitation ni l'oppression n'ont jamais existé sur Terre, peut-être que la non-violence affichée peut apaiser la querelle. Mais si le régime tout entier, et jusqu'à vos non-violentes pensées, sont conditionnés par une oppression millénaire, votre passivité ne sert qu'à vous ranger du côté des oppresseurs. Donc tout ça pour dire que l'opposition, ce n'est pas tellement celle qu'on aimerait finalement entre des partisans de la violence et des non-violents. Le choix qu'on doit poser, c'est un choix entre quel type de violence on cautionne. Soit une violence active dont on devient acteur d'une manière ou d'une autre, ou complice, soit, si on se dit non-violent, c'est une violence à l'égard de laquelle on est passif, mais qu'on laisse faire. Les non-violents, les Européens qui sont contre la violence, ben, ils sont contre la violence, mais en attendant, ça laisse évidemment les Français coloniser l'Algérie, l'exploiter, la soumettre et l'humilier. Évidemment. Alors on a beau être non-violent et dire non, mais en attendant, on a élu effectivement des représentants, des politiques qui mènent ces politiques et on est complice d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous voyez bien, donc c'est cela que Sartre évoque. De quelle violence êtes-vous le complice? Êtes-vous complice d'une violence passivement éventuellement et même lâchement finalement, en ne faisant rien? Êtes-vous complice donc d'une violence qui est une violence qui vise à soumettre une population? Ou bien, nous dit Sartre, êtes-vous complice d'une violence qui essaye de libérer cette population dominée? Le choix, c'est pas je suis violent ou pas violent. Le choix qu'on a à faire, c'est quelle violence on soutient, activement ou lâchement. Et c'est évidemment quelque chose qui est terrible quand on le médite, enfin qui me semble particulièrement interpellant. Alors là, chacun se situe évidemment comme il le souhaite, mais je trouve que c'est quelque chose qui fait réfléchir. Alors maintenant, pour terminer, donc l'hégélianisme et le marxisme ont été clairement, peut-être qu'en en parlant comme j'en ai parlé, c'est trop rapide et on n'en prend pas la mesure, mais ça a été vraiment une doctrine qui a été utilisée, mise à toutes les sauces, de différentes manières, par non seulement des gens de gauche, évidemment, avec le marxisme, mais aussi par des gens de droite, bien entendu. Donc tout le monde s'est servi de cette vision de l'histoire où il n'y a rien à faire, donc c'est par la violence, effectivement, que l'on fait avancer les choses, et pour chacun des acteurs, quelle que soit sa conception du monde, c'est évidemment la bonne conception, le progrès, donc c'est ce qu'il entrevoit comme étant le progrès, et qui, donc, nécessite de passer par des moments qui sont des moments redoutables. Alors maintenant, aujourd'hui, quand on regarde un peu comment on parle de la violence, comment on la justifie éventuellement, on se rend compte que, notamment, donc c'est l'exemple que je voudrais prendre, dans le contexte particulier de la crise de l'environnement, où on se rend compte de plus en plus que, ben voilà, on est en train de saccager le monde, et qu'on se met en danger, qu'on met déjà aujourd'hui des populations en danger, mais que progressivement, c'est tout le monde qui va être mis en danger. Donc, si du moins cette lecture est juste. Donc, on voit effectivement des mouvements apparaître et qui revendiquent la violence. Alors, ce qui m'a intéressé en lisant ces auteurs-là, qui revendiquent explicitement, ouvertement, ils publient leurs arguments, ce qui me semblait intéressant, c'était de voir comment ils argumentaient. Alors, il y a parfois On ne peut pas le nier, il y a parfois des relents d'hégélianisme que l'on retrouve encore dans leurs propos, mais il faut bien reconnaître que dans ces discours contemporains, donc de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, la référence à Hegel n'est plus nécessairement une référence centrale. Elle est là présente peut-être, ce sont des gens en tout cas qui ont gardé comme héritage la conviction que la violence est peut-être incontournable pour faire progresser le monde, mais il faut bien reconnaître en tout cas que ce n'est plus ainsi avec Hegel hein, que l'on argumente. Alors, donc je vais essayer de vous montrer un peu comment les choses se présentent. Alors, deux points. Donc, n'empêche que si la référence à Hegel n'est plus une référence de premier plan, n'empêche qu'on peut relire la crise environnementale qui s'annonce. On peut la relire à travers la grille dialectique, évidemment, de Hegel. Donc, je vous donne un exemple hein, de ce que ça pourrait être. Thèse, on commence donc par la thèse toujours. Eh bien, c'est, souvenez-vous de Marx, hein, on peut reprendre des intuitions de ce côté-là, c'est toute cette période de l'humanité où l'homme se comprend comme appartenant à la nature. Donc il ne se confond pas avec la nature peut-être, mais enfin il appartient à la nature, il en dépend clairement, et il se fonde, ou en tout cas il gère sa vie à partir des lois de la nature. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il ne faut pas rêver, donc il y a une espèce de, on pourrait présenter ça de manière idyllique, il y a une espèce d'harmonie bien sûr avec la nature, mais en même temps il ne faut pas rêver parce que ce sont des famines, ce sont des maladies. Enfin, c'est toute une série de menaces, évidemment. Donc, la vie est dure dans cette nature. Mais n'empêche que ce qui est dominant durant toute cette période, c'est la conviction que ben, il faut bien mourir et la mort fait partie de la vie. Alors, c'est toujours triste, c'est délicat. Souffrir n'est jamais une partie de plaisir, évidemment. C'est même ce qu'on redoute. Hein, quand vous lisez les Grecs, on se rend compte qu'il y a déjà des débats sur toutes ces questions, évidemment, que l'on ne se résigne pas facilement, mais c'est dans l'ordre des choses. C'est comme diraient les stoïciens, la nécessité, hein, contre laquelle nous ne pouvons rien. C'est ce que les dieux veulent. Et donc, conception du monde, conception de la vie, conception de la place de l'homme, en harmonie, une harmonie parfois interpellante, mais en harmonie avec finalement la nature. Donc, thèse. Où la mort appartient à la vie, ce qui est important, c'est la vie, bien sûr, mais dans le fond, on peut mourir de mille choses, on peut mourir à tous les âges, il y a une mortalité infantile évidemment importante, durant des siècles, hein, concernant les êtres humains, il y a une fragilité de la vie, ben voilà, on doit se battre et c'est dans l'ordre des choses, c'est naturel, quoi. Il n'y a pas la notion, si vous voulez, ou en tout cas telle que nous la vivons aujourd'hui, il n'y a pas la notion d'injustice par rapport à ce que la nature peut nous infliger. Antithèse. Alors l'antithèse, donc quand est-ce qu'il va y avoir un basculement? Alors en tout cas dans l'histoire de l'Occident, on pourrait se dire, c'est vrai que cette espèce d'harmonie où on se comprend à partir de la nature, ben, ça va commencer à changer avec la Renaissance, avec Galilée. Et puis plus tard, Descartes, qui sont souvent cités comme deux auteurs ici charnières, et qui vont introduire quoi comme conception? Eh bien, ça vous l'avez déjà entendu certainement, qui vont introduire cette idée que l'homme est face à la nature. L'homme ne doit pas se comprendre comme étant soumis aux lois naturelles, mais l'homme est bien un sujet, souvenez-vous de Hegel, hein, donc qui est un héritier de tout ça. Donc l'homme est un sujet face au monde, le monde est réduit au statut d'objet, c'est-à-dire de matériaux qu'on peut exploiter afin de satisfaire les besoins humains. Et on rentre ainsi dans comment une exploitation sans limite du monde, hein, où l'homme n'étant pas du monde, l'homme étant supérieur au monde, l'homme étant une espèce de... oui, d'être souverain, hein, qui grâce à son intelligence maîtrise, anticipe, produit, etc., et bien donc réduit le monde à n'être plus que comment, un matériau à exploiter. Donc ça, ce serait l'antithèse, et vous comprenez bien qui est quoi, qui est la négation de l'harmonie, enfin de l'espèce d'harmonie que l'on a connue dans la thèse. Donc harmonie, il ne faut pas rêver du paradis, hein, mais c'est harmonie, c'est-à-dire qui nie effectivement un mode de vie où l'on se comprenait essentiellement par rapport à l'ordre de la nature, ou ce qui était dominant dans la population, c'était effectivement que ben, les choses sont ce qu'elles sont. Les cycles naturels sont ce qu'ils doivent être, et ben voilà, la mort fait partie, hein, enfin tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc cette espèce d'harmonie est niée, négation, dans une séparation entre le monde et l'homme. Et l'homme est celui qui doit exploiter le monde. Ça, c'est l'antithèse. Et aujourd'hui, on se rend compte, donc ça fait quand même 5 ou 6 siècles, hein, il a fallu 5 ou 6 siècles pour qu'on se rende compte que cette manière de se concevoir par rapport au monde était en fait une aliénation, c'est-à-dire une véritable négation, c'est-à-dire une destruction à la fois du monde, de la nature et de l'homme. Et nous en sommes à ce point aujourd'hui où on voit se profiler effectivement la menace en détruisant le monde, c'est l'homme lui-même que l'on détruit. Et donc la seule issue, synthèse, troisième période, progrès, ça va être de nier cette négation, de nier cette opposition entre la thèse et l'antithèse, de nier donc cette illusion que l'homme peut se comprendre en dehors de la nature et est souverain par rapport à elle. Et donc, comment supprimer cette négation entre la thèse et l'antithèse, hein, ce processus, ça ne peut être que par une nouvelle négation, qui est la négation de la négation, hein, donc une nouvelle négation qui est peut-être une forme de violence, tout comme le passage à l'époque, enfin à la culture que nous connaissons a été quand même d'une violence inouïe. Donc c'est le monde qui est arraisonné, comme dit Heidegger, de façon incroyable. C'est toutes les civilisations naturocentrées qui sont balayées par la culture occidentale, hein, qui impose son modèle. Enfin bref, donc ça a été d'une violence inouïe. Cette vision du monde instaurée par Galilée et Descartes, eh bien, ce sera par une nouvelle violence contre certaines visions. Donc, vision, ça veut dire quoi? Contre certains hommes, contre les hommes du passé, de ce monde-là. Donc, c'est une violence qu'il va falloir opposer à ces hommes qui continuent à croire que l'on peut exploiter le monde comme on doit l'exploiter. Et donc, c'est une espèce de, pour reprendre un titre d'ouvrage de Prigogine et Stengers, c'est vers donc une nouvelle alliance que l'on s'achemine, ou que l'on devrait s'acheminer, peut-être pas pour tout de suite malheureusement, mais en tout cas à travers cette violence, cette destruction du monde humain qui exploite la nature donc telle que nous le connaissons aujourd'hui, donc c'est par ce conflit contre cette civilisation-là, par la destruction de cette civilisation-là, qu'effectivement, on donnera une chance peut-être à un nouveau rapport, une nouvelle alliance avec le monde. Et vous comprenez bien, c'est comme, hein, donc ça je ne l'ai pas développé, mais c'est important. Donc la synthèse, ce n'est pas simplement la suppression de l'opposition. C'est-à-dire, dans la synthèse, c'est la synthèse de tout ce qui a été vécu auparavant qui s'y retrouve. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est dans cette nouvelle alliance, on ne retrouve pas la thèse de départ, ce n'est pas ça. Hein, puisque tout ce que l'on a appris à connaître grâce, si je puis dire, à l'exploitation du monde, eh bien, on le garde évidemment comme acquis. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La synthèse, la nouvelle alliance, ce n'est pas retrouver l'harmonie de la vie d'autrefois. Nous savons ce que nous avons acquis des savoirs et on ne peut pas vivre comme si nous les ignorons. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, bien sûr. Donc, la synthèse. On y arrivera, donc ce progrès vers une humanité réconciliée avec la nature, on y arrivera, si on est hégélien, par la négation de la négation, par des actes par conséquent qui sont violents, puisqu'ils visent à nier, effectivement, à effacer de la carte, à dépasser une civilisation qui était une civilisation aliénée parce qu'aliénante. Donc, il y a d'abord, par rapport aux grandes questions de l'environnement, il y a effectivement moyen de faire une relecture hégélienne, hein, de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et donc ce serait catalogué sans doute, hein, par toute une série de connaisseurs, de visions marxistes, de l'écologie ou je ne sais quoi d'autre, mais on n'est pas obligé d'être comment marxiste évidemment. Donc la dialectique est un mode de réflexion possible, une manière d'interroger le monde, même si on est un penseur apolitique ou même si on est un penseur qui s'identifie à un courant de droite, par exemple, hein, peu importe. Donc ici, c'est la grille de lecture qu'on utilise en philosophie. On ne prétend pas nécessairement faire de la politique, c'est-à-dire s'identifier à un courant politique, bien entendu. C'est une manière de faire parler le monde, de faire parler l'histoire et de comprendre dans quelle mouvance nous sommes et de comprendre effectivement qu'il y a des groupuscules qui ben, sont prêts à assumer cette négation de la négation, prêts à assumer cette violence qu'ils estiment nécessaire. Maintenant, deuxième chose, c'est que si on lit effectivement les auteurs contemporains qui défendent froidement le recours à la violence, qui légitiment, donc je vous le disais, la référence à Hegel n'est pas toujours explicite, il faut bien le reconnaître, mais il y a d'autres manières, donc ils utilisent d'autres manières de justifier ce recours à la violence. Et donc je vais essayer de vous le raconter. Alors ici un ouvrage de référence où vous retrouverez des activistes effectivement qui justifient ce recours à la violence, c'est notamment comment Jensen, Cates, McBee qui ont écrit un livre qui s'appelle DGR. Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète. Ça a été publié aux éditions Libres en 2019, donc c'est une traduction récente. Et voici ce que donc ces activistes qui sont des intellectuels, ils ont un certain background quand même, donc c'est pas simplement que des slogans, quoi, ils argumentent. Et voici donc quand vous lisez leur littérature, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en ai retiré, les arguments. Les arguments qu'ils utilisent pour justifier la nécessité de recourir à la violence. Alors, je vais vous les exposer ici, avec une question que vous devez peut-être vous poser, en tout cas c'est celle que moi je me suis posée, c'est que peut-on répondre à ces arguments? Et vous allez voir que, enfin moi il me semble en tout cas, mais je ne connais que ce que je connais, mais il me semble que c'est terriblement difficile de trouver sur le plan intellectuel, de trouver effectivement soit des contradictions, soit des contre-arguments qui permettraient de sortir de ce à quoi ils nous conduisent, à savoir ben, de constater que, ben oui, peut-être que la violence est nécessaire. Alors, dans leur littérature, donc, quand vous lisez, il y a cinq arguments qui sont entremêlés, donc il faut les dégager, cinq arguments qui sont entremêlés, et quand vous les avez tous les cinq sous les yeux, ils sont donc d'une puissance redoutable. Alors, donc ici, on va les distinguer clairement pour que comment on ne mélange pas tout. Donc, premier argument, c'est d'abord de reconnaître, alors là, c'est avec les discours scientifiques, donc ce sont des gens qui sont terriblement instruits, ils connaissent les rapports du GIEC et ils connaissent toute une série d'autres rapports, donc ce sont des personnes qui, effectivement, donc sur la base des découvertes scientifiques, vont d'abord poser un constat, c'est même pas un argument, c'est un constat, c'est il y a urgence. On ne peut plus s'autoriser, avec toutes les prospectives que l'on a, donc toutes les projection que l'on a sur base des données scientifiques connues aujourd'hui, on sait que si on attend 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'est trop tard. Il y a une urgence à agir aujourd'hui pour que la température n'augmente pas de plus de 1,5 degré ou 2 degrés ou 3 degrés. Il y a une urgence si on veut sauver la vie. On sait que si on n'agit pas tout de suite, ce sera trop tard. Et on sait que si c'est trop tard, ça veut dire quoi concrètement? C'est la vie sur Terre qui est menacée. Avec d'abord des déplacements de population, des problèmes de famine probablement, enfin bref, toute une série de conséquences en cascade qu'on peut bien imaginer, dont on voit déjà un peu aujourd'hui les premiers signes. Et donc voilà, il y a une urgence, on ne peut plus attendre. Alors vous comprenez, ça veut dire quoi quand on rentre dans cette logique-là? Ça veut dire que quand on constate preuve à l'appui, donc sur la base de toute une série de données scientifiques, enfin bon, je ne vous les donne pas ici parce que sinon on n'en finirait pas, mais donc ça tout le monde peut les retrouver évidemment. Donc sur la base de ces données scientifiques. Donc une fois qu'on est convaincu qu'il y a une urgence et qu'on ne peut pas attendre, qu'on ne peut pas reporter, vous comprenez que on évacue ici, ou on relativise en tout cas terriblement, toute une série de stratégies comme celle basée sur l'éducation, par exemple. Parce que l'éducation, changer les mentalités, ça prend deux, trois générations. Or, évidemment, les négociations politiques, ça prend aussi un temps terrible. Hein, on le voit bien avec les négociations internationales, hein, où on prend des décisions qui consistent à décider qu'on ne décide pas. Enfin bon, et ça n'en finit pas, évidemment. Ou bien on prend des décisions et puis quand on contrôle 2 ans plus tard, on voit qu'on n'est pas passé à l'acte, enfin, ou pas suffisamment, pas assez loin. Enfin bref. Donc, les négociations politiques, ce n'est plus possible. L'éducation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à éduquer, mais on sait qu'on ne peut pas attendre d'avoir des générations convaincues. Il faut agir maintenant. Enfin bref, et vous voyez que rien qu'avec cette idée de l'urgence, ben forcément, vous êtes en train de relativiser, voire de déclasser toute une série de stratégies possibles pour progresser, pour sauver l'humanité. Et quand vous avez évacué toutes ces possibilités, ben il ne reste plus grand-chose. Et ben qu'est-ce qui reste? Ben il reste notamment dans l'urgence, là maintenant, pour contraindre la société, la civilisation a changé d'optique, ben il reste peut-être le coup de force, évidemment. Donc c'est cela qu'on prépare, bien sûr. Deuxième, mais bon, rien que l'urgence ne serait pas sans doute un argument, enfin, ou un constat convaincant, mais n'empêche que, voilà, on est déjà en train de nous amener dans une direction, évidemment, pour légitimer la violence. Alors, petit nota bene ici, donc c'est vrai que ce thème-là de l'urgence est sur la base de toute une série de données scientifiques. Ça, c'est une évidence. Nous avons vu précédemment que la science était juste capable de nous donner des interprétations, que les pronostics sont toujours des probabilités, mais n'empêche qu'on doit bien concéder, hein, que la science ne dit pas n'importe quoi, que les sciences ne disent pas n'importe quoi, et on doit bien concéder que jusqu'à présent, depuis plus ou moins 50 ans, le scénario d'une catastrophe annoncée semble être le récit le plus probable. On n'a pas un autre récit qui aurait la même force de conviction. Enfin, voilà, il semble bien que d'étude en étude, on confirme hein, cette catastrophe que l'on nous dit aujourd'hui inévitable. Donc ça, c'est concernant le premier thème. Deuxième thème, c'est le fait que la cause que l'on défend, hein, souvenez-vous, c'était quelque chose d'essentiel, évidemment, dans notre réflexion, c'est que la désobéissance n'est légitime ou ne paraît juste que, non pas en soi, mais ne paraît juste que si la cause que l'on défend est juste. Ben, ici, la cause que l'on défend est évidemment une cause qui semble juste et qui semble incontestablement supérieure aux individus. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'il s'agit de défendre la vie, pas simplement la vie humaine. Mais puisque ce que l'on découvre ou redécouvre, c'est que notre vie humaine dépend de notre environnement, c'est la vie sur Terre, la vie de l'environnement et de l'être humain qui est la cause, enfin, qui est ici ce que l'on essaie de défendre autant que faire se peut. Donc, la conclusion qu'on en tire ici, c'est quoi? C'est que la cause que l'on défend, qui semble juste par nature, hein, comment être contre cette affaire-là. Donc c'est une cause qui est effectivement générale, universelle, c'est la défense de la vie sur Terre, et évidemment c'est une cause ben, qui est beaucoup plus importante en elle-même que tel ou tel individu pris isolément. Alors ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ce que l'on est en train de préparer de nouveau par rapport à la violence, c'est que si la cause est supérieure aux individus, ben, on peut comprendre alors, même si ce n'est pas de gaieté de cœur, mais on peut comprendre que l'on sacrifie quelques individus, si il faut le faire, si c'est nécessaire. Hein, donc c'est non seulement pour les activistes le sacrifice de soi, je peux sacrifier ma vie parce que ce pourquoi je la sacrifie me dépasse et va bien au-delà de ma petite vie à moi d'individu, c'est la vie de tous. Hein, c'est pour la vie de tous que l'on se bat, et ça peut justifier aussi évidemment que l'on sacrifie quelques individus à quelques autres individus qu'il y ait des dégâts collatéraux, si vous voulez, s'il est vrai que ce sacrifice de quelques individus permettra de préserver, de sauver la vie sur Terre. Troisième chose, troisième argument que vous avez, c'est que les personnes mobilisées et qui sont vraiment soucieuses de changer le monde, de sauver la vie sur Terre, sont en trop petit nombre par rapport à l'ensemble de la population. Donc si, évidemment, nous étions dans un contexte où une majorité est convaincue qu'il faut changer et une majorité change effectivement ses comportements, ben, il n'y aurait pas besoin de désobéir, il n'y aurait pas besoin de recourir à la violence ou à quoi que ce soit. Ben, c'est la majorité qui, sur le plan politique, imposera son opinion, en tout cas dans les systèmes démocratiques, et par conséquent, ben, on aura un mouvement qui pourrait, là, tout de suite, maintenant, se mettre en place. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que les activistes, ceux qui sont prêts à bouger, à désobéir et à aller aussi loin qu'il le faudra éventuellement, sont une minorité. Et donc, vous comprenez la question qui apparaît ici, une fois que l'on constate, de nouveau, c'est un constat, hein, nous sommes une minorité, donc imaginons, nous sommes une minorité, nous sommes lucides, nous comprenons qu'il y a urgence, la cause que nous défendons est supérieure aussi bien à nous-mêmes qu'à n'importe quel autre être humain, donc les individus ne comptent pas, peu importe, donc nous sommes une minorité, nous savons qu'il faut agir, quels sont les moyens que nous avons à notre disposition en tant que minorité pour forcer la majorité à changer. Ben, vous comprenez que quand vous êtes pris dans ce paradoxe-là, enfin, dans cette situation-là, ben, je peux discuter, mais je n'ai pas le temps de discuter pendant des années. Il y a urgence, et donc la seule chose que je peux encore faire pour essayer de sauver les affaires, ben, il n'y a peut-être que la violence. Une minorité a un impact sur une majorité en recourant effectivement à la violence. En tout cas, c'est un des moyens possibles. On pourrait imaginer peut-être aujourd'hui, remarquez bien, là il y aurait peut-être une alternative, hein, ce serait éventuellement de jouer sur une manipulation de l'information. Hein, donc, on sait aujourd'hui qu'on peut manipuler les foules grâce à Internet, et donc on pourrait imaginer qu'une minorité qui maîtrise bien Internet pourrait effectivement agir assez rapidement, en quelques semaines, en quelques mois, pour influencer les comportements. Enfin, on pourrait l'espérer. On pourrait le supposer. C'est l'hypothèse que l'on a faite pour le Brexit, comme pour l'élection de Donald Trump, hein, où en quelques mois, où on a pu influencer des majorités. Donc peut-être que là, on pourrait imaginer quelque chose comme une manipulation des masses, qui serait une forme de violence, hein, de toute façon, puisque ce serait une manipulation, mais n'empêche que ce serait pour la bonne cause, quoi, pour le coup. Mais enfin, voilà, donc ici, chez ces auteurs que je vous ai cités tout à l'heure, on n'est pas dans cette logique de la manipulation de l'information. Au contraire, ils essayent, eux, d'avoir des raisonnements argumentés, scientifiquement fondés. Donc ils ne sont pas dans des stratégies, en tout cas dans ce qu'ils disent, ils ne sont pas dans des stratégies de falsification de la réalité pour obtenir un bénéfice quelconque, un bénéfice, donc ici, défendre la vie sur Terre, bien sûr. Donc la seule chose, c'est que nous sommes en trop petit nombre à être conscients et prêts à tout pour sauver la vie sur Terre, à avoir conscience des enjeux et de la gravité de la situation. Donc les moyens que nous avons à notre disposition en tant que minorité infime au regard de la masse des gens qui ne bougent pas, c'est peut-être alors des coups de force qui vont impressionner la majorité, hein, quelque chose qui va installer la peur, éventuellement provisoirement, mais qui va obliger, contraindre les gens à réagir. Quatrième chose, c'est que les autres, justement, cette majorité dont on est en train de parler, hein, enfin ici l'accent a été mis sur la minorité, mais maintenant donc minorité face à une majorité, cette majorité elle est composée de deux groupes. Un groupe minoritaire qui est le groupe des salauds. Donc ce sont toutes les personnes qui veulent s'enrichir absolument, n'ont aucune considération pour la vie sur Terre, aucune considération pour l'avenir, aucune considération pour la nature. Et donc ce sont des gens qui font de l'argent avec tout et n'importe quoi, et tout est toujours bon, et on laisse causer les activistes, on laisse causer les Greta Thunberg et compagnie, en attendant on en profite tant qu'on peut en profiter. Donc ça, ce sont les salauds qui sont tout à fait au courant de la situation. Donc écoutez Gaël Giraud qui parle du monde financier, c'est un économiste français qui travaille dans la haute finance, et qui parle donc des personnes qu'il côtoie au niveau international, donc dans le monde de la haute finance. Ce sont des gens qui sont tout à fait informés sur les enjeux environnementaux, mais qui, froidement, veulent faire du chiffre et décide en âme et conscience, effectivement, de ne pas bouger, de ne rien faire pour l'environnement. D'autres s'en chargeront, mais en tout cas, eux, ils continuent. Donc Gaël Giraud, c'est quelqu'un qui est très, très intéressant parce qu'il explique très bien tous les enjeux financiers, économiques, etc., liés notamment aux questions d'environnement. Donc, vous avez d'une part les salauds, on pourrait dire ça comme ça, et d'autre part, vous avez la majorité dans ce groupe majoritaire qui est composé c'est un ventre mou, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont informés. C'est probablement vous et moi. Enfin, c'est des gens voilà, qui sont un peu informés, qui lisent, etc., qui font des petites choses. Donc, on trie ses déchets, on fait un petit potager, on soutient une association, enfin, des choses pareilles. Mais on se rend compte, donc, c'est le ventre mou de la population. Pourquoi? Parce que, certes, ce sont des gens qui sont un peu conscientisés, qui font des choses gentilles, mais ça n'empêche pas la destruction du monde, évidemment. Et donc, souvenez-vous de Sartre, hein, par rapport à l'Algérie, on dirait volontiers, et parfois il y a des propos qui vont dans ce sens-là, hein, dans la littérature que je commente ici, hein, on dira, vous êtes soi-disant opposé, évidemment, à la destruction de la vie sur Terre, mais par votre attitude, ce que vous êtes en réalité, c'est des complices de la destruction du monde. Pourquoi? Parce que vous n'en faites pas assez. Ce que vous faites, c'est ce qui vous permet de ne pas perdre votre confort. Et par conséquent, vous êtes des complices finalement de. Il faut agir. Enfin bon, toujours est-il que. Donc, ils ont des propos très durs, mais comme Sartre, hein, quand il s'adresse au lecteur, évidemment. Donc, mais en attendant, donc, ce qui est important de retenir, c'est ceci, c'est que quand on est dans ce quatrième point, à savoir que quand on parle des autres, ce sont soit des salauds, soit des collabos, des complices. Même s'ils ont des idées, même s'ils font des petits efforts, mais ils ne font rien pour empêcher le système. Même s'ils croient aider la planète, en fait, ils ne font rien du tout. Eh bien, une fois que vous avez dévalorisé des catégories d'individus, hein, surtout les salauds, évidemment, le ventre mou, ça, on va y revenir, on en aura besoin, mais en attendant, quand vous dévalorisez, quand vous montrez que ce sont vraiment des salauds, que ce sont vraiment des lâches, que ce sont vraiment des gens sans foi ni loi, enfin, qui ne pensent qu'à gagner de l'argent, etc. Quand vous les avez dévalorisés à ce point-là, vous comprenez que ce que l'on prépare, c'est quoi? Ce que l'on prépare, c'est que ce sont tellement des salauds que si on en tue l'un ou l'autre dans l'affaire, ou si on malmène en tout cas l'un ou l'autre de ces salauds, ce n'est vraiment pas grave. Hein, combiner ça avec les trois autres points qu'on a déjà vus, la cause est supérieure, etc., etc., franchement, il n'y a rien à regretter. Hein, à malmener ou à tuer, à supprimer éventuellement ces gens qui menacent, qui sont une menace finalement pour l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la vie sur Terre. Et puis vous avez, donc on dira, ce même pas des dégâts collatéraux, donc ça peut être des cibles, on les désigne comme cibles une fois qu'on les a rabaissés au statut de salopards. Et puis vous avez cinquième argument. Le cinquième argument, c'est un constat lui aussi de nouveau, c'est que depuis le temps, hein, donc c'est vrai que les questions d'environnement, ça fait environ 50 ans qu'elles sont sur la table. Depuis le temps où on a pu prendre conscience des risques qui deviennent réalité aujourd'hui, des risques auxquels on allait donc se confronter, on a tout essayé. On a négocié, on a changé, on a fait pression, il y a eu, enfin, tout ce que vous voulez, peu importe, et on se rend compte qu'on a tout essayé et que rien n'a donné de résultat. C'est-à-dire que, à l'heure d'aujourd'hui, on continue à exploiter la Terre, donc de manière infinie, alors que l'on sait que les ressources sont finies. Donc, quand vous mettez tous ces arguments ensemble, il y a urgence, la cause que l'on défend est supérieure, les personnes mobilisées sont trop peu nombreuses pour changer par des moyens qu'on pourrait dire pacifiques. Les autres sont des salauds pour certains, des collabos pour d'autres. Et comment on a tout essayé, c'est-à-dire tous les moyens non violents, Ben, quand vous avez tout cela ensemble, que vous le retournez dans votre tête, que vous réfléchissez et qu'on vous demande, mais qu'est-ce que vous pouvez encore faire d'autre pour essayer de changer les choses? Eh bien, c'est vrai que là, enfin, ce sont des bouquins, évidemment. Moi, je vous le résume ici en 5 lignes, mais vous avez des argumentations et des argumentations, et on peut comprendre que des gens qui baignent dans cette littérature, hein, qui essayent de penser les choses, qui essayent de trouver des alternatives, ben, ils doivent bien conclure, en tout cas moi je n'ai pas trouvé de faille apparente, ils doivent bien conclure que les constats sont justes. Le jugement concernant les salauds, bon ça on peut encore discuter, mais en tout cas donc les constats sont justes, il y a des gens sans foi ni loi, la cause est supérieure aux individus, enfin, etc. Et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce qu'on peut faire, soit on ne peut plus rien faire, et c'est la destruction annoncée de la vie sur Terre, ou bien... Ben, on peut encore essayer quelque chose, et la dernière chose qu'on peut essayer, c'est le pire, c'est la chose que l'on ne voudrait pas faire sans doute, mais qu'il faut peut-être assumer maintenant, c'est la violence, négation de la négation, destruction du monde, c'est la négation, et pour s'opposer à la négation du monde, à la destruction du monde, il faut la négation de cette négation, il faut donc une violence à la hauteur de la violence qui détruit le monde. Alors, ça, ce sont les 5 arguments que l'on retrouve chez ces auteurs, et ils rajoutent souvent quelques éléments pour essayer de rendre acceptable leur lecture. Première chose, alors, on l'a déjà dit, mais enfin, puisqu'ils en parlent, donc je le dis aussi. Donc, première chose qu'ils disent, c'est voilà, est-ce que d'abord vous êtes, est-ce que vous pensez, oui ou non, que la cause que nous défendons, à savoir la vie sur Terre, donc pensez-vous que cette cause est juste en soi? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut d'abord réfléchir. Si vous estimez que non, bah, évidemment, alors vous n'allez pas suivre. Mais si vous estimez que, bah, oui, défendre la vie sur Terre, c'est quand même quelque chose d'important, donc là, on a un premier point qui... Donc ça veut dire, souvenez-vous, hein, donc si on fait la synthèse de tout ce que nous avons vu depuis début janvier... Donc, la désobéissance civile n'est légitime que si la cause est juste. Donc, êtes-vous persuadé que la cause que défendent ces activistes est une cause juste, à savoir la vie sur Terre? Deuxième chose, c'est que s'il faut commettre des actes violents, alors c'est tout à fait étonnant comme argument, enfin comme discussion, comme point de discussion, mais enfin voilà, il faut recruter parmi des non-violents. Donc c'est-à-dire que le risque ici, évidemment, pour qu'il y ait un mouvement qui soit un mouvement mené avec succès, il faut éviter évidemment d'attirer tous les psychopathes qui vont y trouver du plaisir, évidemment, à aller tuer telle personne, à faire exploser une bombe ici, enfin je sais pas quoi. Donc il faut, parce que c'est suffisamment grave, c'est terriblement grave de recourir à la violence, il faut que ceux qui y recourent ne le fassent pas par plaisir, parce qu'ils ont un tempérament... psychopathe, mais il faut que ce soit des personnes convaincues que c'est la dernière chose, la seule chose qui nous reste à pouvoir faire. Donc il faut recruter parmi les violents, donc là il y a une sélection qui doit être très stricte et écarter toutes les brebis galeuses hein, qui pourraient s'infiltrer. Troisième chose, les autres, le ventre mou dont je parlais tout à l'heure, la majorité qui est conscientisée mais qui n'ose pas bouger, qui ne veut pas bouger, qui ne sait pas bouger, enfin bon. Et surtout, peut-être le ventre mou qui, par principe, s'oppose à la violence ou ne se sent pas capable de mener des actions violentes. Hein. Donc ça, ils en tiennent compte. Hein. Donc tout le monde n'est pas capable de choses pareilles. Eh bien, que vont-ils dire? Eh bien, parmi donc tous ceux qui composent ce ventre mou de personnes donc sensibilisées qui déjà jardinent, font de la permaculture et ce genre de choses, eh bien, ce qui est important, c'est de les sensibiliser, donc de s'adresser à eux, pour voir si ils ne sont pas prêts quand même à participer. C'est-à-dire, on ne peut pas, on n'a pas besoin d'avoir non plus des millions de personnes qui posent des bombes partout, mais on a besoin d'avoir donc quelques-uns qui sont prêts à assumer malheureusement ces actes violents qu'ils jugent eux donc nécessaires, mais il faut après avoir du soutien. Donc pouvoir cacher des gens, pouvoir les nourrir, pouvoir organiser des réseaux, enfin des choses pareilles. Et donc on a besoin d'une kyrielle d'individus pas forcément capable de poser des actes violents, mais comprenant aussi l'importance des actes violents et étant prêt donc à y participer à distance, sous une forme donc logistique donnée, hein, donc de cachette ou que sais-je d'autre. Donc c'est un soutien. Alors ça c'est une première aide. Et puis tous ces gens qui s'intéressent à la permaculture et alors je ne sais pas quoi d'autre, enfin l'exploitation raisonnée du monde, d'une façon ou d'une autre, ce sont des personnes qui maintenant sont très importantes aussi. On ne peut pas leur reprocher de ne pas être violentes, parce qu'une fois encore, tout le monde n'a pas le cran de mener des actions violentes, mais ce sont des gens néanmoins qui sont terriblement précieux, parce que par ce qu'ils mettent déjà en place aujourd'hui, ils préparent la société de demain. Parce qu'il faudra bien, évidemment, qu'on puisse continuer à nourrir les gens, etc., etc. Donc voilà, il faut qu'il y ait déjà aujourd'hui, nous qui sommes encore dans l'ancien monde, ce monde qui détruit la planète, il faut qu'il y ait des gens qui pensent à comment on peut faire pour demain. Et donc, hein, l'exemple de la permaculture est un exemple facile, mais voilà, ce sont des gens qui, par leur expérience, peuvent montrer, ouvrir des pistes et montrer qu'il y a moyen de nourrir la population. Par exemple, hein, donc, et puis, dernière chose qu'ils évoquent, dernière chose, eh bien, c'est tout simplement que, donc là ce sont d'autres auteurs, montrent que ce n'est pas simplement la violence qui permettra de changer le monde. Donc il y a parfois un discours un peu plus atténué, si vous voulez. Donc la violence est nécessaire, hein, étant donné les 5 arguments qu'ils proposent, les 5 constats qu'ils font, la violence est incontournable, mais ils vont rajouter, donc en s'appuyant notamment sur l'histoire, que la violence seule en général ne fait que semer du chaos. Hein, parce que c'est vrai que dans les débats, bien sûr, ben voilà, il y a tout le problème de, ben d'accord, violence, violence, mais qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas être pire, etc. Et donc, en fait, il faut une pluralité d'interventions. Il faut à la fois que des gens non-violents travaillent les questions sur le plan politique, de rapport de force idéologique, etc. Et en même temps, pour que ça ne soit pas que du bavardage, il faut qu'il y ait des personnes prêtes à agir de manière violente. Et c'est l'addition de tous ces comportements qui vont des comportements politiques, éducatifs, jusqu'à des actions coup de poing, c'est l'addition de tous ces comportements qui, selon ces observateurs-là, hein, s'appuyant donc sur l'histoire, ce sont toutes ces actions-là additionnées qui produisent dans l'histoire, effectivement, des changements. Donc, rien que de la non-violence, ça ne fait que conforter le pouvoir en place et ça ne change rien. Rien que de la violence, c'est prendre le risque du chaos. Et ça risque finalement d'être une action qui avorte, c'est-à-dire que les actions violentes vont être réprimées, donc dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, vont être réprimées et rien ne changera. Ou bien au contraire, on impose une dictature à la place, hein, et ça c'est épouvantable aussi. Donc rien que la violence, ça ne va pas, la non-violence, ça ne va pas non plus. Donc c'est les deux ensemble. Donc c'est agir sur tous les fronts, sur tous les terrains ensemble, mais... Hein, les partisans de la violence donc, s'adressent souvent aux non-violents, disant « mais nous nous battons pour la même chose, donc permettez-nous d'agir aussi ». Enfin, si vous travaillez tout seul, vous les non-violents, vous n'arriverez à rien, et nous avons besoin de vous pour les questions politiques, etc., pour l'après. Hein, voilà. Enfin, bon. Donc, souvent, ils essayent de sortir du débat, où on oppose les non-violents et les violents pour montrer qu'il y a une complémentarité entre toutes ces actions. Donc voilà un peu les discours tenus par ces gens. Et donc, vous voyez bien, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas de faire ce descriptif, ça n'a aucun intérêt, mais c'est maintenant à titre personnel, hein, de nous demander, mais voilà, quand on entend ça, alors après il faut le retourner dans sa tête, il faut se documenter, il faut chercher encore, mais dans le fond, est-ce que ces personnes ont raison, oui ou non ? Alors moi, je ne suis pas un directeur de conscience, je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut en penser, évidemment, mais c'est vrai qu'en travaillant ces matières, ce que je peux au moins vous dire, c'est que j'y ai trouvé de quoi me désarçonner. Si on joue le jeu et qu'on sort de la morale, donc, où moi j'aurais plutôt tendance à condamner la violence, personnellement, mais si je mets mes jugements moraux de côté, et que je tiens compte des arguments amené par les partisans de la violence, il faut bien reconnaître que sur le plan intellectuel et sur le plan des arguments, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun auteur qui me permettait de pouvoir dire, donc, en dehors d'un jugement moral, de pouvoir donc, s'opposer frontalement à ces personnes. Enfin, il y a quelque chose là d'interpellant. Maintenant, deux remarques pour conclure cette... session, donc sur la désobéissance. La première chose, tout d'abord, c'est que nous traversons une période évidemment un peu difficile, éprouvante avec le coronavirus. Et ce qui est vrai, c'est que on se rend compte, grâce à ce coronavirus, que sur le plan politique, on peut prendre des décisions terribles, qui sont critiquées, enfin bon, mais peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse ici, mais en tout cas, c'est de constater effectivement que les politiques peuvent décider s'ils estiment la chose nécessaire en fonction d'un danger redoutable qui serait ici donc une contamination à grande échelle. Donc les politiques peuvent décider d'arrêter un système, d'arrêter la production économique, de suspendre les choses. Et donc quand on entend les scientifiques nous dire que la pandémie actuelle, comme les précédentes d'ailleurs, hein, depuis le début du XXIe siècle, ben, sont en partie seulement peut-être, mais sont favorisées par notre mode de vie, par notre système socio-économique où il y a une mondialisation, il y a de la circulation, il y a des changements climatiques, enfin voilà, et que tout ça est cause effectivement, ou en tout cas tout ça facilite la propagation de pandémies. On se dit que, on se dit quoi? Ben, on se dit tout d'abord que par rapport au climat, qui est un problème bien plus redoutable que le coronavirus, d'abord venir nous dire aujourd'hui que l'on ne peut pas arrêter l'économie, alors qu'on l'a fait pour le coronavirus, ben vous comprenez bien que, y a de plus en plus de citoyens qui risquent de ne pas pouvoir accepter cette phrase-là. On ne peut pas changer les choses. On l'a bien fait pour le corona, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour une menace bien plus redoutable qui est donc liée au changement climatique et donc à notre mode de vie de façon donc générale. Donc de venir dire d'abord qu'on ne peut pas agir, ce n'est pas possible. Et si on constate qu'après la période de confinement, de coronavirus, la vie reprend comme avant, l'économie reprend comme avant, la destruction du monde reprend comme avant. Ce que l'on peut craindre, moi je ne suis pas prophète, mais je me dis que ce que l'on peut craindre, c'est que de plus en plus de citoyens n'acceptent pas. Donc le discours risque d'être celui-ci, en tout cas l'idée qui pourrait traverser la tête de certains pourrait être celle-ci, c'est qu'on avait l'occasion de changer. Ça fait des années qu'on le dit, qu'on manifeste, qu'on fait pression, qu'on a eu l'occasion de le faire et on ne le fait pas. Mais alors que voulez-vous qu'on fasse encore? Soit on ne peut plus rien faire, soit alors maintenant il faut taper sur la table, enfin. Et le risque que moi je vois dans l'après, c'est des risques de conflits terribles entre deux mondes, si vous voulez, enfin si on veut le dire ainsi. Les partisans de l'ancien monde qui disent qu'il ne faut rien changer, qu'il faut relancer l'économie, qu'il faut sauver les choses, et effectivement, hein, donc c'est un vrai problème, donc il ne faut pas non plus minimiser la difficulté, mais à la manière donc de ce qu'on a toujours fait, et conflit donc entre ceux-là, qui sont ceux qui sont, semble-t-il, au pouvoir aujourd'hui, pour autant qu'on puisse en juger, en tout cas majoritairement, et ben, des citoyens qu'on pourrait dire appartenir à un monde nouveau, le monde vers lequel nous tendons et qui de plus en plus, étant instruits, s'exaspèrent de voir que il y a encore des gens qui n'ont rien compris et qui de plus en plus alors ben, vont effectivement faire de la résistance, s'opposer et peut-être, face à l'urgence, recourir à des moyens graves, des moyens que l'on peut condamner. Ça, c'est une première chose. Et puis la dernière chose que l'on pourrait dire à titre, donc de nouveau pour la réflexion, c'est que les cinq arguments que je vous ai donnés, donc l'urgence, la cause supérieure aux individus, les personnes mobilisées trop peu nombreuses, les autres qui sont des imbéciles et qui n'ont rien compris, et on a tout essayé, et malheureusement, on n'a jusqu'à présent, en tout cas, aucune réponse, aucun changement, ces cinq arguments, hein, que l'on retrouve dans la littérature à propos des débats autour de l'environnement, ben, quand vous réfléchissez un peu, vous vous rendez compte que ce sont des arguments que vous pouvez mettre à toutes les sauces pour défendre n'importe quelle cause. Les anarchistes peuvent les utiliser. D'ailleurs, parfois, il y a des accointances entre les anarchistes et ceux qui défendent les problèmes environnementaux. Mais aussi, par exemple, les terroristes qui comment, embrigadent, donc comme les terroristes islamistes. Hein, qui embrigade, donc Daesh par exemple, hein, qui embrigade des gens pour aller se faire exploser, on peut craindre, il faudrait faire le travail. Bon, pour le peu que je connaisse, il me semble que l'intuition devrait être vérifiée. C'est que donc dans le discours, dans la rhétorique qui est tenue pour convaincre des gens, effectivement, qu'il faut aller se faire exploser, qu'il faut mener un combat contre l'Occident, etc., eh bien, vous retrouverez les cinq arguments. du point de vue d'un certain islam, donc d'une certaine conviction religieuse, ben les Occidentaux sont des salauds, la cause, donc défendre Allah est supérieure évidemment à toutes les causes, donc les individus ne comptent pas, donc on peut se supprimer, on peut se sacrifier évidemment, on a tout essayé, on veut pas être entendu, enfin on ne peut pas être entendu, enfin voilà. Vous aurez les cinq arguments pour défendre aussi des actes terroristes évidemment, que là on aura du mal évidemment à cautionner, bien sûr. Donc comme quoi, faites attention, donc ça veut dire que, et ça correspond à ce que nous disions donc dans la première séance, ce qui fait que la désobéissance est juste ou n'est pas juste, vaut la peine d'être soutenue ou ne vaut pas la peine d'être soutenue, c'est bien la justesse de la cause que l'on défend. La manière de défendre une cause bonne ou mauvaise sera plus ou moins identique, avec des arguments plus ou moins identiques, mais n'empêche que donc ce ne sont pas les arguments comme tels qui font qu'une cause est juste ou non, ben c'est la cause elle-même, évidemment. Et donc, ça nous renvoie à la séance numéro 3 et numéro 4, où on se demandait comment pouvoir effectivement s'assurer de manière définitive que la cause que l'on défend est juste. Et ça, ce n'est jamais évident, a priori. Ici, par rapport à tout ce que l'on a raconté, on n'est jamais à l'abri, contre toute attente, il faut bien le reconnaître, mais on n'est jamais à l'abri de constater un jour que toutes les projections scientifiques étaient peut-être une erreur, étaient peut-être finalement un peu hasardeuses et étaient plus de l'ordre de la probabilité que de la certitude. On n'est jamais à l'abri à proprement parler. Enfin voilà, donc comme ça nous avons fait le tour des grandes questions, me semble-t-il, qui accompagnent la question de la désobéissance civile. Qu'est-ce qui nous motive? Quels textes dans la littérature nous permettent de penser la désobéissance civile? Comment s'assurer qu'une cause est juste? Et puis jusqu'où aller dans la violence? Comment peut-on entendre des personnes qui cautionnent le recours à la violence? Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et ben, j'espère qu'en ces périodes de confinement, vous allez bien et qu'on aura le plaisir de se revoir prochainement. Merci beaucoup.